Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éthers. Dites, qu'avez-vous vu ?
Moi, c'est un festival en fait où je viens depuis très longtemps. Quand j'avais 18 ans, je venais en stop de Rennes. J'ai fait des très jolies rencontres ici. J'ai rencontré Jodorowsky et j'ai eu la chance de voir Nicolas Bouvier avant qu'il y meure. Et c'est un festival auquel je suis très attachée.
Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je vois que vous avez acheté des livres.
Oui, alors là ça concerne la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui s'est passé du côté de Saint-Malo et de la vallée de la Rance à l'été 44.
Et dans le petit sac de madame, le chat pirate, Chaboum et l'île au trésor.
Voilà, et Myrta pour mon autre petite fille.
Vous venez d'où ?
De Rennes.
Vous cherchez quoi là ?
On va avoir un film, le Népal. Et puis 16h15, retour à Kotelnitch avec Emmanuel Carrère, c'est tentant.
Vous venez à Étonnant Voyageur pour les films ?
Pour tout, c'est la première fois. On a traversé la France pour ça.
Vous venez d'où ?
Chalon-sur-Saône.
Pourquoi vous venez là ?
Pour le soleil, non. Étonnant Voyageur, ça fait rêver, ça donne envie. C'est faire des rencontres, c'est voyager dans tous les sens du terme. Et puis, c'est élargir sa réflexion.
C'est un festival qui donne envie de voyager ou de lire ?
De réfléchir sur ce que c'est la rencontre, ce que c'est l'autre, ce que c'est l'ailleurs, ce que c'est partir et revenir.
Lire est un voyage.
Bienvenue au Festival Étonnant Voyageur, 29e édition commencée hier sous le soleil et qui se poursuit jusqu'à demain. 250 auteurs du monde entier participent à ce grand festival littéraire qui, en effet, la dame le disait, s'intéresse de plus en plus à l'image des écrivains signent et débattent. Mais on vient aussi à Saint-Malo pour voir des documentaires et des fictions, découvrir des photographes, des auteurs de BD. Il suffit pour être programmé ici de regarder le monde, d'en penser quelque chose et de savoir le transmettre. Il faut être un étonnant voyageur, expression chère à Baudelaire, comme le rappelait Guillaume Gallienne en disant un extrait du Voyage. Le capitaine de notre grand atelier breton est un Lyonnais qui a parcouru le monde, ce baroudeur, ce grand reporter, cette ancienne plume de Libération, journaliste au Canard Enchaîné et l'auteur de 8 romans qu'il est vraiment difficile d'oublier. On citera Mon Traître, Le Quatrième Mur, Profession du Père ou Le Jour d'Avant. Vous qui êtes avec nous, et vous êtes très nombreux ici à Saint-Malo, merci d'accueillir comme il se doit Sorge Chalandon. C'est ce qu'on appelle une entrée, monsieur Chalandon. Bienvenue dans le grand atelier.
Merci beaucoup.
Être un étonnant voyageur, ça vous parle ? Est-ce que c'est un idéal ? Est-ce que c'est une façon d'être particulière quand on est romancier ?
Comme j'ai à côté de moi Isabelle Autifié, qui est une étonnante voyageuse,
oui.
Je suis extrêmement humble et je l'ai invitée exactement pour qu'elle réponde à cette question.
Trop facile.
Vous invitez des invités pour qu'ils répondent à votre place, vous ?
Non, c'est-à-dire que... heureusement peut-être, je ne sais pas, mais... le journalisme m'a permis des voyages que j'aurais évités. Liban pendant la guerre, l'Afghanistan pendant la guerre.
Pas mal de conflits, bien
voilà,
sûr.
Pas mal de conflits. Et donc je me suis toujours dit, à ma retraite ou quand j'aurai un certain âge, j'aimerais d'autres voyages que ceux que j'ai connus. Et malheureusement, ça ne prend pas le chemin. Mais en tout cas, c'est... Donc pour moi, étonnant voyageur, c'est toujours étonnant. Étonnant personne qu'on rencontre en voyage.
Je ne vois pas Sorge Chalandon retraité.
Ben non, c'est-à-dire qu'au Canard, c'est impossible. D'abord, c'est difficile d'y entrer, c'est encore plus difficile d'en sortir, donc je vais essayer de rester le plus longtemps.
Oui, on peut être un très très vieux journaliste au Canard Enchaîné et continuer à travailler de façon...
Très jeune dans la tête.
Très active.
Voilà, absolument.
Vous avez l'habitude des salons du livre. Qu'est-ce qui caractérise celui-ci, étonnant voyageur, pour vous ?
Alors, vous allez croire que je dis ça chaque fois que je suis partout, je vais dire la même chose. Non, c'est pas vrai. C'est les gens ici, ils viennent, ils ont une ferveur particulière. Alors, il faut savoir que c'est un salon qui est payant, c'est important. C'est-à-dire que les gens payent. Et les gens payent pour venir, et payent pour lire, et payent pour être dans les rencontres. Et c'est normal, mais c'est un peu cher. Et je trouve que les gens qui payent pour apprendre, pour rencontrer, pour lire, je trouve ça, c'est quelque chose qui est bouleversant. Moi, quand je vois des rencontres avec les gens qui sont dans la rencontre, ou même des gens qui arrivent sous le chapiteau pour acheter des livres et qui ont donné leur écho pour entrer et pour acheter, je trouve ça encore plus bouleversant que juste... C'est pas une foire du livre. C'est un lieu où on vient chercher ce que l'on cherche et on sait ce que l'on cherche.
Oui, on entendait la dame dire « je viens chercher du sens ».
bien, ça a du sens. Et puis moi, ce que j'ai noté, c'est la rencontre. Et je trouve que à Saint-Malo, il y a plus de rencontres qu'ailleurs. Peut-être que d'un côté, parce que d'un côté, il y a la mer, donc il y a Isabelle Autissier qui est à côté de moi, et de l'autre côté, il y a la terre. Moi, je me sens plus proche de la terre. J'ai peur en mer, mais en tout cas, c'est un lieu où on peut pas échapper. On peut pas échapper à la mer. On peut pas échapper aux rencontres qui nous attendent à terre.
Bonjour, Isabelle Autissier.
Bonjour.
Vous n'avez pas encore emmené sur votre bateau Serge Chalandon.
Non, mais j'arrête pas de lui dire de venir, donc je vais finir par le faire craquer un jour, je pense.
Surtout, vous partez bientôt à l'aventure. Vous irez où précisément?
Alors, je vais dans une petite île. On va faire un petit test de géographie. L'île de Jan Mayen.
Levez la main et dites-nous
Levez
où c'est.
Levez la main. Oh, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent.
Attendez, juste un mot. Jan Mayen n'a aucun rapport avec la Mayenne, qui est le département. Qui est, parce que le jour où Isabelle Autissier prendra son bateau pour aller en Mayenne, faites-moi signe, je veux être à l'arrivée. Mais en tout cas, non.
Ça sera un grand reportage de Serge Chalandon. Oui.
Voilà, donc je vous donne la solution. Atlantique Nord, exactement au milieu de l'Atlantique Nord et à peu près 1000 km au nord de l'Islande. Il y a une petite île paumée où il n'y a rien, donc j'adore.
Chaque année, vous prenez du temps pour vous, c'est-à-dire pour faire votre activité favorite, qui est de naviguer.
C'est indispensable, sinon si je ne suis pas un peu trempée dans le salé, je vais sécher. Ça n'irait pas du tout. Non, c'est vrai que moi, j'ai absolument besoin de naviguer. Donc c'est la première chose que je mets dans l'emploi du temps, c'est 2 mois et demi où il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de fax, il y a juste la mer et le bateau, et ça suffit largement pour occuper une vie. C'est essentiel.
Ouais, c'est bizarre parce que ses copains le prennent pour eux aussi, c'est-à-dire il n'y a pas de copains non plus. Donc elle est enfin tranquille, et il y a un côté jaloux, c'est-à-dire qu'en fait la mer nous l'enlève, et nous l'enlève souvent, nous l'enlève
mais
à chaque fois.
Elle me recrache après, donc ça va.
En tout cas, elle nous la ramène, mais voilà.
Je salue aussi le jeune homme avec une cravate qui est à côté d'Isabelle Autissier.
Jeune homme, c'est sympa.
Qui s'est habillé pour la télé. Bonjour Sébastien Gnedig.
On m'avait dit que c'était la télé.
Eh bien non, je suis désolé. Et heureusement, c'est de la radio.
C'est pour le public.
Ça. C'est pour le public. Eh bien oui, vous avez raison. Autrefois, on s'habillait le dimanche quand on regardait la télévision, paraît-il, notamment dans les campagnes. On m'a toujours raconté ça, moi, chez moi. Sébastien Gnedig, vous avez adapté Profession du père, qui est un autre livre célèbre de Serge Chalandon. On en parlera avec vous dans un instant, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on écoute Nicolas Bouvier. Il a été cité par une festivalière. Voilà ce qu'il disait dans les années 90, en 1990.
Je crois que le plus grand cadeau du voyage, c'est l'érosion. Il y a une espèce d'érosion qui fait qu'on revient plus mince qu'on était parti, d'une certaine manière plus pauvre. Si on a des plumes, c'est quand même pour les perdre. Hein. Et moi, je crois qu'il ne faut pas du tout se braquer contre cette érosion qui est semblable à celle de la vie, mais enfin qui se fait dans une dynamique qui est plus naturelle, parce qu'il y a le mouvement et le déplacement dans l'espace. Alors je crois que tout voyage muse un peu et comme un galet dans le lit d'un torrent, mais il muse et il m'arrondit. Et le jour où je serai tout à fait rond, je pourrai m'en aller en paix.
Est-ce que le voyage vous a poli? Est-ce que vous êtes plus ronde qu'avant, Isabelle Autissier?
Alors, je ne sais pas. Non, je crois que moi, ce que je comprends, c'est aussi le voyage, c'est aussi lâcher prise. Ce qui est très important, lâcher prise sur ses certitudes, celles qu'on emmène au début avec soi, et puis qu'on confronte avec une réalité qui n'a rien à voir. Et le mieux, c'est quand cette réalité qu'on découvre, elle ne correspond pas à ce qu'on pensait. Et là, c'est ça qui des fois vous cabosse un petit peu ou vous arrondit, c'est selon. Mais en tout cas, c'est certainement ça qui vous fait ouvrir les yeux très grand.
Vous savez que vous venez de donner la définition du journalisme, et je m'adresse à Serge Chalandon. Il faut partir en doutant et peut-être trouver autre chose à quoi on s'attendait.
Mais nous sommes une enveloppe vide, c'est-à-dire que le journaliste, alors je ne sais pas pour la navigatrice, mais en tout cas, le journaliste, j'espère, enfin les vieux journalistes en tout cas, nous sommes des enveloppes vides qui allons nous confronter à quelque chose. Peut-être que nous allons revenir avec des certitudes inverses. Peut-être que nous allons apprendre. Peut-être que nous allons savoir. Nous allons écouter. Nous allons lire. Mais en tout cas, le journaliste qui part avec sa certitude, il est mort. Mmh. Ou alors il écrira une connerie, ce qui est encore pire.
On va commencer l'émission en musique avec U2, un titre emblématique du groupe irlandais. Vous qui avez couvert le conflit nord-irlandais, c'est Sunday Bloody Sunday.
I can't believe the news.
en direct du festival Étonnant Voyageur avec comme invité principal et ses invités, Serge Chalandon. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson de U2, Sunday Bloody Sunday?
Sunday Bloody Sunday, a terrible massacre. Oui. Committed by the British in 1972. Non, oui. Bon, allez, je recommence.
C'est pas de traducteur. Hein.
Non, mais c'était la lutte pour les droits civils en Irlande en 1900. Et là, nous sommes en 1972. Mmh. Et une manifestation pacifique d'Irlandais marche dans la ville de Derry, que les Britanniques ont renommée Londonderry. Et ils marchent pacifiquement, ils n'ont pas d'armes. Sont des enfants, des femmes, des vieillards, des adultes qui marchent. Et les Britanniques, et ils mettront plusieurs dizaines d'années à le reconnaître, les Britanniques envoient un régiment parachutiste de Londres exprès pour arrêter la manifestation, dont le thème était « Un homme, un vote »,« One man, one vote », selon un peu comme les Noirs américains aux États-Unis. Et le thème était « Nous, catholiques irlandais, on a juste envie d'avoir les mêmes droits que la majorité protestante loyale à la couronne ». Les parachutistes sont arrivés à Derry, ils sont mis en position, ils ont ouvert le feu, 12 morts, ils sont repartis à Belfast et pendant des années, les Britanniques ont dit que des coups de feu étaient venus d'en face, et les Britanniques, et la reine s'est excusée, bien tardivement, mais en tout cas elle s'est excusée, en disant qu'effectivement l'ordre avait été de shoot to kill, tirer pour tuer, arrêter la contestation de la façon la plus violente qui soit, pour que plus personne ne songe à redescendre dans la rue, et en fait, cette fin souhaité par les Britanniques a été le commencement de quelque chose qui a amené au processus de paix.
Combien de temps passez-vous en Irlande occasions, bien sûr.
J'y vais moins maintenant, mais à l'époque de ce qu'on appelait les troubles, oui, comme les événements d'Algérie, c'est des mots qui sont assez formidables, du temps de la guerre, j'y allais 2 à 3 fois ou 4 fois par an, et lorsqu'il y avait des gros problèmes comme les grèves de la faim en 1981, je pouvais rester 2, 3, 4 mois en Irlande du Nord, et je revenais pour respirer, et je revenais pour ne pas trop devenir fou parfois.
Vous êtes revenu avec des reportages d'abord, mais surtout quelques années après avec des livres, avec 2 romans sur quelqu'un que vous avez aimé, qui vous a aimé, un ami qui vous a trahi, qui a trahi son pays,
qui a trahi surtout son peuple, son pays et son combat. C'était un républicain. Moi, je suis un trahi périphérique, mais l'amitié, la trahison d'amitié, c'est extrêmement douloureux aussi.
Mais la trahison d'amitié et l'amitié tout court, ça fait partie des thèmes de Serge Chalandon.
Oui.
J'ai l'impression que souvent, c'est un moteur pour démarrer un roman.
La fraternité et l'amitié. Je ne sais pas écrire l'amour. Les gens le font très très bien.
C'est de la pudeur.
Non, c'est un garçon et une fille qui s'embrassent, par exemple, j'ai pas les mots langue, tout ça, je sais pas comment on fait. Non, sincèrement, non.
Ça viendra un jour.
Je ne crois pas. Imaginez 2 personnes dans un lit, par exemple, je n'ai absolument pas de mots, je rougis, je peux pas le faire. En revanche, une main sur une épaule, un regard dans un pub de fraternité, même un couple d'hommes et de femmes, et l'un qui jure à l'autre son amour à vie alors qu'elle est sur son lit de mort, par exemple, toutes ces choses-là, j'y arrive parce que j'ai les mots.
Ah, c'est intéressant, vous n'arrivez pas à écrire l'amour.
Je n'arrive pas à écrire l'acte amoureux.
C'est pas du tout le cas d'Isabelle Autissier. Dans Soudain Seul, c'est un couple amoureux qui se retrouve un peu seul.
Ah, il se retrouve carrément très seul, oui. Et c'est un peu ce qui m'a intéressé d'ailleurs dans cette histoire de couple qui se retrouve perdu sur une île froide. Donc il n'y a pas de cocotier, c'est pas voilà. C'est jusqu'où l'amour résiste à la faim, à la peur. Et quand est-ce que on se demande si peut-être il vaut pas mieux sauver sa propre peau ou si on va rester ensemble jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est pas vraiment une. Moi non plus, c'est pas un livre sur l'amour du tout. Non. Mais je crois que la dimension couple quand même donne un sens.
Serge Chalandon, vous teniez à la présence d'Isabelle Autissier. Quand vous vous êtes vus, là, oui, il y a un quart d'heure, vous n'avez pas arrêté de vous parler.
Ouais, oui, parce qu'on ne se voit pas souvent, parce que la mère l'emporte, vous savez. C'est pas l'homme qui prend...
Sauf la femme qui préfère la campagne, c'est ça la suite de la chanson.
Non, je ne me souviens plus.
Mais
non,
d'où est née peut-être cette amitié? Est-ce que vous avez l'Irlande en commun, par exemple?
On sait, l'Irlande. Le whisky. On a l'Irlande en commun.
Non, mais moi, j'ai une grande... C'est un honneur d'être son ami.
Arrête.
C'est vrai.
Pourquoi?
C'est son honneur parce que, en plus, j'ai un truc à lui avouer, mais j'ai jamais osé. Mais c'est vrai. C'est qu'Isabelle a écrit un livre que j'aurais aimé écrire, en fait.
Et celui-ci, Soudain Seul?
Non, un autre. Je vais vous en parler brièvement, mais ça me touche beaucoup parce que moi tout mon travail, notamment à cause de mon père ou grâce à mon père ou à cause de mon père qui est mort en hôpital psychiatrique, qui était un grand menteur, et le livre que Isabelle a écrit un jour, je me suis dit, je suis très content qu'elle l'ait écrit, je suis heureux qu'elle l'ait écrit, qui s'appelle Seule la mère s'en souviendra. Mais c'est un livre qui est absolument formidable parce que c'est un navigateur qui s'appelle March. Et March fait une grande course en 69, je crois que c'est
Oui, ben c'est l'ancêtre du Vendée Globe.
L'ancêtre du Vendée Globe.
C'est un tour du monde en solitaire.
Un tour du monde en solitaire. Et March, et ben, il sent qu'il va pas y arriver. Il n'y arrive pas. Et à l'époque, il n'y avait pas de balises, il n'y avait pas toutes ces choses qui disent où vous êtes précisément. Et March, donc c'est une histoire vraie.
C'est inspiré d'une histoire vraie.
Et March, brusquement, il fait croire aux organisateurs qu'il est toujours en mer. Et il fait des fausses avaries. Et sur son livre de bord, il écrit des choses, etc. Et c'est exactement... March aurait pu être mon père. Et donc, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, zut, moi qui aime bien ce genre-là, elle me l'a pris. Et combien, avec beaucoup, beaucoup de beauté. Mais voilà, donc je voulais lui dire que ce livre-là, j'aurais tellement aimé le signer qu'il fallait que je le dise un jour, et je le dis, voilà, ça y est, c'est fait.
Bon, mais moi je suis super touchée, c'est vrai.
Isabelle Autissier, pourquoi vous écrivez ? Vous avez tellement de vie, c'est vrai, vous avez plein de vie, vous êtes patronne de WWF France, vous avez fait de la radio et vous faites aussi des livres, vous prenez le temps, on l'a dit, de naviguer. Ça vient de quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer par ça ? C'est une évidence quand on voyage de rendre compte par la plume après ?
Je peux répondre à sa place ?
Oui, mais il faudra lui laisser un petit peu de temps quand même.
C'est ma porte-parole.
Juste un mot. Pour moi, c'est une survivante. Vas-y, Isabelle.
Non, mais...
C'est une survivante.
Je ne sais pas si je suis une survivante.
Mais si, t'es une survivante.
Mais on est tous un peu des survivants.
Non, mais
je crois que moi, j'ai besoin, à travers l'écriture, de... D'abord, moi, ça me permet de revenir sur aussi mes histoires, même si c'est des romans. Je trouve que ça permet d'approfondir des choses dans sa tête, d'abord à soi, et puis de les partager, parce que moi, je pense que j'ai quand même une chance incroyable. C'est que, vous voyez, on voit l'horizon là, qui est là.
Oui,
et puis moi, j'ai la chance d'aller de temps en temps de l'autre côté voir comment c'est, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et je me sens, ma façon d'être dans la vie de tout le monde, dans la société, de mettre ma petite pierre, c'est de ramener des trucs de là-bas, ici. Et je suis super mauvaise photographe, je suis incapable de faire des images de films. Par contre, j'ai beaucoup lu quand j'étais petite fille, et j'ai toujours adoré la littérature, la langue et l'écriture. Et donc voilà, donc pour moi, spontanément, partager, c'est raconter par la voix, mais c'est raconté par l'écriture. Et voilà, c'est ma façon d'exister. Alors, c'est peut-être ma façon de survivre.
Est-ce que je peux insister ?
Serge Chalandon.
Non, mais c'est vrai.
Allez-y, développez d'ailleurs. Pourquoi une survivante ?
Parce que Isabelle a vécu, je sais pas si tu l'as oublié, mais nous, on l'avait oublié, mais tu as vécu une histoire assez particulière, une histoire dangereuse, dramatique, qui aurait pu faire que la mère te garde.
Oui.
Et la mère, elle t'a rendu. Et ma question, et pour moi, c'est très important. Lorsque tu vis ça, comment tu y retournes ? Et pourquoi tu y retournes ?
Voilà, voyons. Vous avez une heure et demie ? Tu y retournes pour le bonheur. Parce que tu navigues pour le bonheur. Je navigue pour le bonheur. Et dans le bonheur, il y a 5% d'emmerde, forcément. Et quand tu tombes sur ce moment-là, il faut se battre pour vivre. Et se battre pour vivre, c'est génial. Et les moments où on se dit ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est des moments évidemment d'une intensité rare. C'est peut-être pas les plus agréables, mais c'est des moments où on a une énergie folle et on veut vivre. Et on veut vivre parce qu'on trouve qu'on n'est pas au bout de son propre histoire et qu'on a envie de. Puis on veut vivre pour les autres parce que les autres on les aime. Enfin, il y a des gens qu'on aime et on veut pas leur infliger aussi la douleur de la disparition, et puis soi-même on veut les revoir. Donc il y a une espèce de pulsion de vie qui est géniale, qui est forte. On va pas chercher ça. Moi je vais pas chercher ça. Je vais pas chercher de me mettre en danger. Mais voilà, les moments où ça se passe. Et puis aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pour moi le voyage, c'est aussi s'abandonner au voyage. Ben il y a un moment donné, il faut s'abandonner tout court. Et quand on est dans ces moments-là, on comprend ça. Et on s'abandonne. Et puis, peut-être, je ne sais pas si la mère décide, mais les choses partent d'un côté ou d'un autre. Pour moi, elles sont parties du bon côté, donc je suis encore là. Puis peut-être un jour, ça partira de l'autre. Et puis, voilà.
Vous arrivez à vous abandonner, vous, Serge Chalandon, quand on est un grand reporter, qu'on a beaucoup travaillé à Libération et qu'on fait ensuite des romans issus de ce réel. Est-ce qu'il faut aussi une part d'abandon ?
Alors, je pense qu'il faut une part d'abandon. Il faut faire attention. Moi, ce que j'aime dans... Enfin, Isabelle ne vous l'a pas dit, mais il y a une chose que... Il y a une chose que j'aime chez elle, et quand elle le dit, c'est la mère ne ment pas. Mmh. Elle dit la mère ne ment pas, elle finit toujours par vous rattraper. Et tandis que la Terre, elle, contrairement à ce qui a pu être dit dans le passé, la Terre, elle peut mentir. Donc moi, on m'a toujours expliqué que lorsqu'on a un problème en mer, on attend de revenir en Terre pour le régler. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je trouve ça très très beau. Moi, je crois que je m'abandonne quand je n'ai plus le choix. Il m'est arrivé dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle je sais que je n'ai plus le choix. C'est-à-dire que toute la force s'est transformé en fragilité et je ne peux plus lutter contre rien. C'est comme si les éléments s'étaient déchaînés tout d'un coup. Il faut juste que je me mette en boule et que j'attende que ça passe. À ce moment-là, je m'abandonne. Mais le plus longtemps possible et le plus loin possible, je suis debout. Hein, je suis debout, je suis, je sais pas, donne-moi un lieu du bateau où tu prends le plus les paquets de vent.
Eh ben, l'étrave.
T'es allé à l'avant. À l'étrave, t'es ouais. À l'avant. Voilà, je suis à l'étrave, je suis à l'avant, je me bats. Mais quand je sens cette vague que je n'ai pas vue venir, que je ne soupçonnais pas et je n'y peux rien, eh ben, je prie au fond de moi. Alors, je peux prier le brocoli, parce que je peux être, oui, je suis un adorateur de l'oignon, peut-être. Mais en tout cas, je prie quelqu'un supérieur et je me dis, ouf, voyons ce qui se passe. Mais je n'irai pas lutter tout au bout pour m'écorcher la vie, parce qu'elle est déjà assez écorchée comme ça. Donc, j'attends plutôt que ça cicatrise.
Dans le grand atelier de Sœur Chalandon, on écoute un gars du Nord. C'est Loïc Lantoine qui chante Pierrot.
Atelier Vincent Josse sur France Inter.
Quand il fait noir dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant ma vie, et les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit, dans un sourire, quand je sais plus où faut qu'on s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. J'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire.
La fosse 3 de Liévin dépend du siège 19 de Lens. C'est un puits de service qui emploie 350 personnes. À 6 heures ce matin, c'est la prise de service. Lorsque l'explosion se produit, une demi-heure plus tard, ils sont 45 à la côte 710, 710 mètres sous terre. Très vite, on va dégager 6 blessés, dont 2 sont grièvement atteints. Pour les autres, commence l'attente, l'angoisse pour les familles, la lutte contre la mort pour les sauveteurs. Tout de suite, on envisage le drame, mais chaque heure qui passe va confirmer la catastrophe.
Lors d'une quarantaine environ, ou 38, je n'ai pas le chiffre exact, les victimes de cet accident, catastrophe.
Pour le moment, entre mineurs, entre gens de la région du Nord et du Pas-de-Calais, nous sommes en deuil, Nous sommes solidaires des veuves, nous sommes solidaires de tous ces orphelins, dont le nombre, bien sûr, n'est pas encore connu, puisque nous ne connaissons pas exactement le nombre des victimes, mais ils vont être très nombreux, et tous ensemble, nous sommes très tristes.
Sœur Chalandon, votre dernier roman, Le jour d'avant, est né de ce tragique fait divers qu'on entendait, et on s'en rappelait à l'instant, la dernière grande catastrophe minière en France à Liévin, ce jour de décembre 1974, 42 mineurs sont morts. La mine n'avait pas été nettoyée, on a envoyé des hommes. Et en écoutant cette archive, j'ai senti en vous pas mal d'émotions, ouais. Comme si ce moment-là ressurgissait d'un coup. Bah, avec sa violence.
C'est intact. Moi, c'est vrai que j'étais à Libération déjà.
Mais vous n'avez pas couvert.
Non, je n'ai pas couvert. C'est Serge Julie, le directeur de Libération, qui a couvert. Il a de la chance. Moi, j'étais petit encore. Je découpais les dépêches de l'agence France Presse à l'époque. Il y avait encore des dépêches de l'agence France Presse. Il y avait encore une. Voilà.
Et pourquoi ça vous marque autant?
Mais ça me marque autant parce que tout de suite, tous, on s'est souvenu pourquoi on avait créé Libération à l'époque. C'est-à-dire que tout ce que Serge Julie et tout ce que nos envoyés spéciaux là-bas nous rapportaient n'avait aucun rapport avec ce qu'on entendait à la télé, à la radio, pas, je m'en excuse, hein, mais à la radio, à la télé, un peu partout. C'est-à-dire que le mot qui revenait en boucle, et c'est un mot qui pour moi est un mot odieux, c'est le mot fatalité. C'est-à-dire que il y a des gens qui meurent parce que voilà, parce qu'ils ont fait une erreur. Parce que... Et là, c'est la fatalité. C'est comme si la mort du mineur était inscrite dans son contrat de travail. Un mineur meurt, et ben oui, c'est normal, c'est la fatalité. Non seulement c'est la fatalité, mais en plus qu'on nous disait s'ils se sont sacrifiés. Comment ils sont sacrifiés? Il y a 42 hommes qui descendent au fond, qui descendent dans une, comme vous l'avez dit, dans une fosse de mine qui n'a pas été dégrisoutée, qui n'a pas été nettoyée, qui n'a pas été dépoussiérée, qui n'a pas été humectée. Ces hommes descendent dans un véritable lance-flamme. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas, les charbonnages n'ont pas dit on va les tuer, bien sûr. Et quand ces gens-là descendent, rien n'a été fait, en gros, pour qu'ils remontent. Et il y a 42 morts, et moi, je suis jeune, je suis gamin. J'ai eu des colères, mais des colères lointaines, le Vietnam, ces choses-là qui sont un peu abstraites. Et brusquement, chez moi, dans mon pays, dans ma France, je suis petit, je vais vivre, je vais me battre, moi qui ai toujours cru que le travail c'était le lieu de la fraternité, du respect et de la dignité, je m'aperçois que le travail ça peut être une fosse commune.
Et des années après, des dizaines d'années après, vous faites un roman, évidemment en inventant une situation, c'est un frère qui va venger son frère mort dans la mine, a priori, et comment cette fiction-là naît?
Alors elle naît d'abord parce que j'avais envie de le rendre hommage, c'est-à-dire que je me suis un petit peu vengé, comme je n'ai pas pu aller à l'époque couvrir la situation, et alors que je trépignais, je me suis vengé en 10 ans après, en 84, en couvrant les mineurs britanniques de Yorkshire contre Maggie Thatcher, encore Bloody Sunday, Bloody Sunday.
Oui, voilà, il y a vraiment un lien dans cette émission.
Il y a un lien, et je suis tombé en amour en fait pour deux mondes ouvriers qui me bouleversent, ce sont les marins et ce sont les mineurs. Et j'ai trouvé chez les mineurs britanniques les mêmes trognes que dans le Nord, les mêmes briques, la même bière. Et je m'étais toujours dit, je veux rendre hommage à ces hommes. Je ne sais pas comment. Et puis, c'est vraiment ma première colère d'homme. C'est ma première colère immédiate de proximité.
Et on peut faire un livre avec de la colère?
Alors, je pense qu'il ne faut pas écrire en colère. Enfin, si, on peut toujours, mais si on écrit en colère, il y aura trop de mots, il y aura trop d'adjectifs, il y aura trop de choses. Moi, je pense qu'il faut être en colère, pour moi en tout cas. J'ai écrit ce livre en colère, mais après, je me suis apaisé pour l'écrire. Il fallait rendre hommage. Il fallait que chaque mot soit un hommage.
Oui, parce qu'ils n'ont pas eu de deuil national.
Ils n'ont pas eu de deuil national. Ouais. Ça, au contraire de Courrières, plus de 1000 morts, donc ça a été un deuil national, France, vraiment. Et là, le deuil s'est arrêté dans le Nord.
Vous écrivez « La France a oublié de dire adieu à ses mineurs ».
La France a oublié de dire adieu à ses mineurs, c'est même pire que ça. La France s'est souvenue qu'il y avait des mineurs lorsqu'on a appris qu'ils étaient morts. Donc, mais juste comme ça, rendez-vous compte. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française. Mmh. Il y a 42 cercueils à Liévin, sur la place. Il se déplace pas.
Ouais, il envoie son premier ministre.
Il se déplace pas. Il envoie son premier ministre qui est Jacques Chirac. Formidable. Chirac arrive du Sénégal, il est bronzé. Un homme bronzé face aux gueules noires, ça a de la gueule quand même, c'est assez formidable. Mais il ne se déplace pas. Non seulement il ne se déplace pas, mais c'est pire. C'est-à-dire que l'on apprend après, les petites veuves qui reçoivent la fiche de paye de leurs hommes, les petites dames qui reçoivent la fiche de paye, elles voient que 3 jours ont été enlevés de la fiche de paye. Parce qu'ils étaient absents du travail. Oui, ils étaient absents du travail, effectivement. Mais... Et elles disent à la télé, mais en fait, ils étaient absents, c'est vrai. Mais ils étaient morts, c'est pas chic. C'est bouleversant.
Et leurs habits.
Et qu'on apprend qu'il y a des femmes de mineurs à qui on a retenu de la fiche de paye les habits, les casques, les bottes et les bleus de travail qui avaient été endommagés pendant l'explosion. C'est même pas de la dégueulasserie. C'est une sorte de chose qui se met en place. Est-ce que oui ou non ils étaient présents? Non, on enlève du salaire. Est-ce que oui ou non ils ont abîmé quelque chose qui appartenait à la mine? La réponse est oui, on retient. Et juste ça, plus plus c'est pas un drame national, plus la fatalité, plus ils se sont sacrifiés, ça rend un môme de 22 ans, ça le rend fou. Et ce môme-là, moi, eh ben, pendant des années, je me suis dit, il faut que je le rende hommage. Et pour le 40e anniversaire, je vois à la télé très très brièvement Monsieur Manuel Valls qui rend hommage aux mineurs, avec les vieux mineurs qui ont mis leur casque, avec leurs gamins. Les gamins là-bas, quand ils s'habillent, c'est pas en fée, c'est pas les filles s'habillent en trieuses de cailloux, les garçons s'habillent en mineurs, leur costume de fée et de Zorro, c'est des costumes de mineurs. Et quand on voit ces mômes en face, avec leurs parents, leurs grands-parents, toutes ces années après, qui disent, mais pourquoi vous nous avez laissé tomber? Ben, je me suis dit, tiens, voilà, 40 ans après, tant pis, c'est le moment.
On sent votre émotion.
Oui,
bien sûr,
je suis en colère, mais c'est pas grave, on peut vivre en colère. Mais je pense que écrire en colère, c'est pas une bonne idée. Je pense que la colère est un moteur, mais ce n'est pas une écriture.
Ce qui est beau, c'est de vous voir, je vais le dire aux auditeurs, de vous voir pleurer, là, alors que quand
non,
vous étiez...
Non, je pleure pas, c'est que...
Ben, vous êtes ému, mais quand
c'est
vous étiez...
C'est la poussière les acariens, c'est un truc...
Voilà, c'est ça. À Saint-Malo. quand vous étiez journaliste, vous interdisiez les larmes.
Non, j'interdisais de les écrire. C'est-à-dire que je pleurais, mais je ne le disais pas. Pour moi, le journalisme, enfin, un journaliste, à mon époque, le vieux journaliste reporter
vous
de Viacom...
Vous n'êtes pas si vieux que ça, arrêtez
non,
avec l'âge.
Non, mais si, arrêtez, à 33 ans déjà, je suis...
Alors, quel coquet.
Ces rires sont absolument insupportables.
Je quitte l'émission.
Comme tout le monde, c'est-à-dire, j'ai vu de nombreux journalistes pleurer et des photographes aguerris qui baissent leur appareil photo, qui se tournent et qui pleurent. Mais ça, on n'a pas le droit. Je veux dire, je peux pas faire un article pour dire au lecteur je pleure. Ça a aucun sens. Donc je parle des larmes des autres, je parle de l'effroi des autres, je parle de la stupeur des autres, je parle de la colère des autres, mais mes larmes, ma stupeur et ma colère, j'en fais quoi, moi? J'en fais des romans.
Ça vous touche, Isabelle Autissier?
Bah, il est juste bouleversant. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, mais ce type est incroyable.
Vous allez finir en bateau tous les deux, hein. Je sens que c'est bien parti.
Tant que c'est pas en galère, ça va, non.
Je vais remercier Isabelle Autissier d'être passée dans le grand atelier de Sœur Chalandon à Saint-Malo. Portez-vous bien.
Merci.
Sœur Chalandon, vous êtes un ami de Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Peu de gens peuvent dire que je suis copain de Goldman. C'est quelqu'un qui ne se cache pas, mais qui est d'une très grande discrétion.
Oui.
Il est toujours à Londres?
Il est toujours à Londres, oui.
Et comment vous êtes rencontré?
Il élève ses enfants. Alors, c'est un peu compliqué.
En quelques mots, alors.
C'est très privé?
Ben oui, moi j'aime bien savoir des choses un peu
intimes. C'est très privé, donc on s'est rencontré parce que je vivais avec sa sœur,
d'accord.
Evelyne. Voilà, donc ça c'est privé. Et on a eu une fille ensemble qui s'appelle Sarah. S'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans, voilà. Donc évidemment, lorsque vous êtes avec une femme et que vous avez un enfant, si sa femme a un frère, ce frère devient un copain. Mmh. Et puis ce copain, bah, quand il chante, bah, il chante. Il aurait pu être menuisier, il aurait pu être juste un petit cordonnier, il aurait pu être... voilà, mais en tout cas, pour moi, il a changé la vie.
Il écrit un peu des chansons encore ou pas?
Je ne sais pas. Il faut lui demander, non.
Bon,
si je le savais, je ne le dirais pas, en plus c'est bizarre. Tous ceux, je vous le dis, hein, pour les émissions sur Goldman, sur les tous ceux qui en parlent, c'est ceux qui le connaissent le moins. Donc respectez le silence.
Bah on va l'écouter chanter alors.
Ah oui, génial.
Hein, on a choisi une chanson de lui qui a plus de 20 ans, mais qui vieillit bien. Je trouve c'est Sache que je,
bien
extraite
sûr.
Du disque En passant.
Il y a des ombres dont je t'aime, pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent, il y a du contrat dans ces mots-là. Tu dis l'amour à son langage. Moi les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage, comme un saut sur un parchemin. Alors sache que sache-le. sache que je ni à mourir dans je t'aime. Il y a je ne vois plus que toi. Au monde à ses poèmes, ne plus lire que ses rimes à soi. Un malhonnête stratagème, ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question, non, je t'aime. Demande, m'aimes-tu, toi? Alors sache que je sache-le, sache que
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Jean-Jacques Goldman, vous me le disiez là, et j'aimerais bien que vous le disiez aux auditeurs, vous empruntez certaines phrases de ces chansons, et on les retrouve dans vos livres.
Oui.
Alors si je vous dis Le Jour d'avant, qui est sorti en août dernier.
Le Jour d'avant, c'était... c'est la phrase comme un mineur à sa mine, un marin à son océan, et qui est dans l'une de ses chansons.
Il paraît que Goldman cherche maintenant dans vos bouquins ses...
Ça, c'est pas qu'il cherche, mais...
Ses chansons.
Non, c'est pas qu'il cherche, c'est qu'il trouve, en fait. Ça le fait marrer. Et dans un autre, c'est une chanson qui est très belle. Et j'ai osé reprendre une phrase qui est complexe, parce qu'elle est très, très, très... On la connaît. C'est « Il manquait d'oxygène, même là-haut où les aigles reculent ». Donc c'est pas une phrase simple.
Oui.
Et
il y a
l'un de ses albums s'appelle Entre gris clair et gris foncé, Et dans un de mes romans, je dis que je n'aime, enfin, la personne dit qu'il n'aime pas le noir, je préfère entre gris clair et gris foncé. Donc là, je crois que c'était assez facile pour lui de retrouver. Et j'ajoute que je n'ai, c'est très cordial, je n'ai aucun droit à verser, rien du tout, c'est juste.
Bon esprit.
C'est de l'amitié pure, mais j'aime bien le fait que je cherche à un moment donné du roman, et c'est comme ça, je me dis qu'est-ce que je peux mettre et où? Et je crois, je crois, ça y est, je me souviens.
Oui.
Je crois que dans le jour d'avant, je crois que. Ah non, non, c'est Brel.
C'est Brel.
C'est prendre le train pour le bon Dieu.
Mais la chanson a de l'importance dans votre vie, Serge
oui,
Chalandon.
Ça a de l'importance. Moi, j'aime bien. D'abord, j'écris en musique. Alors, c'est plutôt de la musique baroque. Hein. C'est Cécilia Bartoli, c'est le baroque. J'écris en musique, mais je relis sans musique. Parce que la musique entraîne parfois les mots à des outrances. Il y a trop de mots. Partout, il y a trop de mots. Il y a trop de mots dans les livres, et donc il faut les couper à un moment donné. Et donc, j'écris avec de la musique. Je me laisse un peu embarquer parfois. Et je relis dans un silence absolu. Mais c'est vrai que je n'écris pas pour entendre. C'est en plus un côté un peu fou, parce que c'est le même morceau. C'est la même musique. Ça peut être le même disque que j'écoute en boucle. Donc, je fais plus attention. Mais quand je suis à un moment de Cécilia Bartoli au Pied-Yessou, par exemple, elle chante, et si ma fille rentre en disant « quand est-ce qu'on dîne ?» Donc j'arrête, mais quand je reviens, je suis exactement musicalement là où j'étais quand j'ai arrêté, et donc je me retrouve exactement à ce moment-là, dans la mine, au fond de la mine, en 1974. Le fait qu'il y a eu entre-temps les pâtes au fromage, la petite fille, l'histoire, etc.
Ça ne pose aucun problème.
Non, parce que la musique est en fait la géographie de mon écriture.
Je voudrais que vous nous présentiez Sébastien Gnedig, qui est à côté de vous, auteur de BD, qui a adapté Profession du père. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on adapte une BD, un roman, de Serge Chalandon. Il y avait déjà eu Mon traître, qui était devenu une BD. Ça devient aussi du théâtre, les romans de Serge Chalandon, on en parlera. Profession du père, vous racontez ce que vit un enfant avec un père qui est, disons-le, de façon raccourcie, fou. Qui est fou, qui le violente.
Et violent.
Voilà. Et qui ment et qui est dans des délires permanents et qui fait subir ça de longues années à son enfant et à son adolescent de fils. Et voilà que Sébastien Gnedig a eu envie de mettre des images sur ces mots.
Alors, moi, juste parce que il dira après, mais il est très pudique, Sébastien. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai vécu ça. C'est-à-dire que, habituellement, lorsqu'on vous demande un droit de faire une pièce de théâtre ou droit de un film ou voilà, les gens prennent rendez-vous chez mon éditeur, chez Grasset, et ils viennent avec un protocole ou avec une idée ou avec les grandes lignes de ce qu'ils ont à faire. Là, quelqu'un arrive qui n'est pas Sébastien, mais quelqu'un de Futuropolis, sa maison d'édition, et on m'explique que quelqu'un qui s'appelle Sébastien Gnedig, qui est par ailleurs l'un des responsables de Futuropolis, donc il est à la fois éditeur et à la fois dessinateur, que Sébastien Gnedig a envie de travailler sur Profession du père. Moi, ça me fait peur parce que quand même, c'est mon enfant.
C'est tellement intime, bien sûr.
Mon père, c'est d'une intimité absolue. Et donc, je dis, mais ça pourrait être quoi? Et brusquement, la personne me sort. Il y avait combien de planches, Sébastien ?
80.
80 planches. C'est-à-dire que, dans son coin, tout seul, sans contrat, sans proposition, sans même être certain, ça aurait pu ne jamais marcher, il a travaillé seul dans son coin, et j'ai mes 80 planches devant les yeux.
Mais comment vous expliquez ça, Sébastien Gnedig ?
Je m'explique pas tout, en fait, parce que ce roman, je l'ai pris en pleine figure. L'idée d'adapter un roman m'intéressait dans l'absolu, mais j'en trouvais pas. Et je lis ce livre de Serge Chalandon, dont je lisais d'autres, j'avais lu d'autres livres qui ne m'avaient pas inspiré d'images.
Merci.
Hein, voilà, désolé. Il y en a d'autres, c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, voilà.
Et celui-ci, ou
celui-ci,
il est petit garçon.
Deux jours après, je l'avais commencé. L'histoire de ce petit garçon m'a stupéfié. Voilà, je peux pas dire autrement. Mes parents m'ont demandé, donc je le dis à l'antenne, j'ai eu une enfance heureuse, voilà, il n'y a pas eu de soucis avec eux, ils se sont posé des questions. Mais plus sérieusement, je me suis dit comment un enfant se construit de 10 ans avec un environnement qui change sans cesse.
Tu peux au gré des... Tu peux y aller franchement.
Non mais c'est vrai.
Je veux dire un père dingue.
Un père dingue qui effectivement entraîne son fils dans ses délires et malheureusement dans les plus malsains d'entre eux, celui qui est certainement... Le plus malsain, c'est le père qui, en pleine guerre d'Algérie, trouve que De Gaulle a trahi les idéaux de l'Algérie française et décide de l'assassiner. Et pour cela, il a besoin d'un enfant pour approcher le général De Gaulle. Cet enfant, c'est son fils qu'il va former pendant des mois en le réveillant la nuit pour aller assassiner De Gaulle. Voilà. Et l'enfant le croit. Et ça,
et c'est très joli la manière dont vous dessinez ce petit garçon, parce qu'il a évidemment pas de muscles et le père veut absolument qu'il devienne un homme. Et tout ça, tout ça se montre avec trois fois rien. C'est d'une très grande sobriété ce trait. Hein.
Non, mais justement, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que autant j'ai été d'être sobre et disons pudique, parce que c'est une histoire qui est très violente. Donc, je crois que la pudeur s'impose. Autant quand j'ai vu le trait de Sébastien, je me suis dit, ça n'aurait pas pu être un autre dessinateur. C'est-à-dire que Sébastien a une élégance, il a une ligne claire. Il a une ligne claire en même temps. Moi, j'aime bien. Lui, il dit, je fais des dessins gros nez. Mmh. Mais c'est un peu rigolo. Mais c'est, la ligne claire, c'est la tête à Toto. C'est-à-dire que c'est même la claque visible, la claque visuelle du père qui frappe son enfant, ça passe. Mmh. Parce que brusquement, il y a une sorte il y a une jolie épure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le réalisme violent avec le môme, avec la.
Oui, il n'y a pas de rouge pour le sang, par exemple.
Il
n'y
a pas de sang, il n'y a pas de rouge pour le sang. Mais en même temps, c'est très violent. C'est-à-dire que il y a une chose que moi, j'ai du mal à faire, qu'un auteur a du mal à faire en texte, c'est les silences. Et j'aimerais que tu parles des silences, parce que lui, en revanche, en BD, les silences de BD de Sébastien sont beaucoup plus pesants que mes silences d'auteur.
Bah, c'est le code de la bande dessinée, en fait. C'est les outils de la bande dessinée. Moi, si j'adapte ce roman, c'est effectivement pour y apporter quelque chose que la bande dessinée peut apporter. Et c'est vrai qu'on est d'abord aussi sur un roman introspectif. Donc on est dans la tête du petit Émile Choulan tout au long du livre. Et mon premier souhait, c'était d'enlever tout ça. Tu verrais qu'il y avait trop de mots, bah voilà, j'en ai enlevé plein. Mais pourquoi ? Pour montrer les situations. Moi, ce qui m'intéressait, je me suis dit, s'il y a un intérêt avec la bande dessinée, c'est de montrer les séquences, ce que vit ce petit garçon, que je ne lâche jamais. Je suis toujours avec lui. Et j'espère, si je réussis mon coup, c'est que, eh bien, le lecteur puisse, en lisant les scènes, essayer de comprendre ce que mais ce petit garçon vit.
J'ai relu le Profession du Père après avoir lu la BD. Et j'ai l'impression qu'il ne manque rien au roman Sœur Chalandon.
Alors, il ne manque rien, mais il y a des choses qui me soulagent dedans. C'est-à-dire que, mais ce qui me soulage, mais c'est important. Quand j'ai écrit Profession du Père, le petit s'appelle Émile. Quand j'écrivais Émile, je me voyais. Quand j'écrivais Les coups du Père, je voyais mon père. Quand j'écrivais ma mère, je voyais ma mère. Et là, Sébastien, il a fait une image du père qui était la sienne, une image de la mère qui était la sienne. Et donc, quand je vois le petit Émile, je le plains, mais je ne me plains plus. C'est-à-dire que le père de Sébastien...
Vous avez de la distance.
Il a une grosse moustache et des lunettes. Mon père n'a jamais eu de grosse moustache. Mais c'est très bien. C'est-à-dire que je pense que, en fait, Sébastien Gnédic a donné naissance à un autre père, à un autre enfant, à une autre mère, alors que les terreurs sont intactes. Mais j'ai le droit, j'ai la possibilité. C'est ça. Il me donne le droit de mettre un tout petit peu en marge et de pleurer sur un autre gamin.
Vous disiez à Isabelle Autissier, tu es une survivante, mais vous aussi, vous êtes un survivant.
Quand j'y repense, je pense qu'il y aurait pu y avoir danger de mort.
Comment expliquez-vous que vous soyez là devant nous, au Festival Étonnant Voyageur, à pouvoir écrire des romans, à pouvoir avoir de la distance sur cette souffrance de petits garçons et d'adolescents ?
Non, j'ai pas de distance, mais j'en ai fait autre chose. Et surtout, je me suis sauvé, en fait.
Vous êtes vivant.
Je suis vivant, et j'ai appris qu'on pouvait être aimé. J'ai appris qu'il y avait... Moi, j'étais dans un monde sans livres, dans un monde sans musique, dans un monde sans culture, dans un monde avec une seule chaîne de télévision qui était en fond sonore. Et tout d'un coup, j'ai découvert le cinéma, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert la littérature, j'ai découvert des peintres, j'ai découvert le café à la menthe. Il fallait pas le boire, c'était arabe. Donc, j'ai découvert toutes ces choses. J'ai découvert l'autre monde, le vrai monde. Et brusquement, je suis passé d'un monde en noir et blanc, entre gris clair et gris foncé, ça y est, Jean-Jacques, c'est fait, en noir et blanc, ce monde-là, le monde de la bande dessinée, c'est exactement ça. Il n'aurait pas pu être, par exemple, il n'aurait pas pu être en couleur, parce que je viens de ce monde-là, le monde du noir et blanc.
Tu sais, moi j'aurais être neuve demain, dans le vent, être sève et veuve des chagrins. Souvent je rêve aussi d'ailleurs ou d'autres choses. Je rêve que je suis écorce, que mon parfum abreuve ton corps de rose. Et si je rage, tu sais, j'espère. Je prie en secret un messie inconnu et j'oublie que les blés jamais n'en ont connu. J'appelle à la rescousse l'enfance au doux sommeil. J'appelle mes soleils. Je danse pour qu'en moi jamais ne s'émousse la joie. La joie est un pire si je nage à contre-courant. Et tant pis si je cours trop vite souvent. Si j'enrage dans les forêts nues, nous vendre nos pères.
C'était elle qui chantait Tant pis, le temps de remercier Sébastien Gnedig pour sa venue dans le grand atelier de Sorge Chalandon aux Étonnants Voyageurs à Saint-Malo et de rappeler le titre de sa BD Profession du Père d'après le roman de Sorge Chalandon chez Futuropolis. Dépêchez-vous d'aller signer, monsieur le dessinateur. Dans un instant, les informations et puis tout de suite après, la suite du grand atelier.
À 23h09 sur France Inter et vous retrouvez la deuxième partie du Grand Atelier avec Vincent Josse.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le Grand Atelier sur France Inter. C'est le Grand Atelier du romancier Sorge Chalandon. Nous sommes en direct de Saint-Malo. C'est le festival Étonnant Voyageurs. Il y a beaucoup de monde qui est venu vous écouter là, Sorge Chalandon. Vous êtes impressionné?
Alors, sincèrement, je crois qu'il y a toujours autant de monde pour tout le monde. Donc, non, je vous remercie vraiment d'être venu, mais je pense que c'est habituel à Saint-Malo, c'est-à-dire que toutes les salles sont pleines, toutes les conférences sont pleines, toutes les rencontres sont pleines.
Donc il faut être modeste.
Et, oui, il faut être modeste. Non, ça m'aurait fait de la peine s'il n'y avait eu personne. Mais disons que je suis dans ce que Saint-Malo est. Et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.
À vos côtés, il y a l'écrivain algérien Yaa Belaskri. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis l'homme de la photo en France, ça va lui faire plaisir. Le monsieur photo, l'un de nos monsieur photo, écrivain de la photo, je dirais aussi, c'est Christian Cojol. Bienvenue, Christian Cojol. On attend également dans cette deuxième heure de votre grand atelier la grande reporter Annick Cojan qui va nous rejoindre dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Jeanne Haddad quand elle chante Mutate.
Can you feel the vibe? Another kind of sensation. See, can you see how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration waving through me? Mm-hmm.
Le deuxième prix est attribué à Anna Hermouette, en classe de terminale au lycée de Notre-Dame de la Compassion de Pontoise, Académie de Versailles. Sa nouvelle est intitulée « Jeux d'enfants » et elle va venir nous rejoindre pour que Sorge puisse lui remettre son diplôme. Bravo.
C'était quand cette remise de prix, Sorge Chalandon?
Alors c'était hier. C'était hier.
Et vous êtes le parrain.
Alors je suis le parrain, c'était un peu compliqué, mais en même temps j'ai bien aimé. L'idée c'était dire la guerre. Et dire la guerre, donc on m'a demandé en fait de faire deux incipits, de 1000 signes, 1500 signes, sur la guerre. Donc le premier était simple, le deuxième plus compliqué. Le premier, c'est une famille entière bloquée dans un appartement avec des armes, et l'ennemi arrive. Mais c'est pas simple quand même. Et le deuxième, c'est un père qui rentre de la guerre et le fils n'a pas envie qu'il rentre et qu'il soit là et qu'il prenne sa place à table. Donc j'ai offert ces deux incipits, j'ai offert aux jeunes.
Les jeunes ont dû écrire la suite.
Voilà, donc c'est quand même ces 30 académies en France. Donc on a reçu plus de 3000 suites, 3000 jeunes qui ont
écrit des nouvelles.
Et ce qui est formidable chez la petite Anna, c'est qu'en plus, elle était membre du jury d'Étonnants Voyageurs. Donc c'est absolument, c'est une coïncidence formidable.
On va l'écouter, Anna, parce que Vinciane Lomonier est allée la rencontrer.
D'accord.
Savez-vous ce qui est le pire dans la guerre ?
Ce n'est pas d'y aller,
mais d'en revenir. On part à la guerre pour des centaines de raisons, bonnes, mauvaises, absurdes, choisissant de combattre ou ne le désirant pas. On part sans savoir ce qu'elle va faire de nous, la guerre. Et lorsqu'on en revient, ce n'est jamais tout à fait vivant, pas mort non plus, juste épargné. On a laissé là-bas des lambeaux de soie et l'on rentre avec un barbare caché dans son ventre. La guerre était juste, on revient constellé de médailles. La guerre ne l'était pas, on rentre épuisé de remords. Dans les deux cas, solitude et silence hanteront les nuits du combattant.
Et silence.
Alors écrivez sur la guerre et désirez ardemment la paix.
Alors ça, c'est un texte de Sorge Chalandon qui ouvre un peu le concours. Toi, quand tu l'as lu, qu'est-ce que ça t'a inspiré ?
L'idée de dépasser en fait l'image qu'on peut avoir de la guerre à la télévision ou dans les jeux vidéo, l'image très violente des combats. Et le fait que dans le concours de nouvelles, ce qui était attendu, c'était plutôt d'aller chercher le côté humain, de s'identifier peut-être aux personnes confrontées au conflit, de comprendre leurs motivations et comment elles pouvaient réagir.
Alors qu'est-ce que tu as imaginé, toi, à la suite de cette ouverture écrite par Chalandon?
Au départ, les deux choses que j'avais envie d'approfondir, c'était à la fois le rapport à l'autre au cœur du conflit, puisque là, le père de la famille se retrouve confronté à un soldat ennemi, en fait, qui est blessé en bas de chez lui, et la question se pose, est-ce qu'il doit lui venir en aide ou pas? Et également l'impact que pouvait avoir la guerre sur son fils, un enfant, où la guerre fait partie de son quotidien. C'est presque un jeu pour lui. En tout cas, lui, il la vit comme telle. À la fin, le fils tire sur le soldat au nom de tout ce qu'on lui a répété toute son enfance.
On nous avait dit
la guerre pour protéger les nôtres.
Et nous y avions cru.
C'est cette même guerre qui brisait les familles. La guerre avait transformé le rire de nos enfants en rire d'assassin.
Elle ramenait l'homme à son état le plus primaire.
Nous prenions ce que nous avions de plus cher.
Chaos.
Ruine.
Destruction.
J'aime beaucoup écrire, et j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Et un de mes projets cet été, avec les vacances qui arrivent, ce serait de vraiment prendre le temps pour écrire. L'écrit, ça me permet d'exprimer plus de choses et de manière plus forte. Et il y a aussi le fait que, alors moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, je pense que d'autres personnes ne le voient pas comme ça. En fait, c'est vraiment rassurant d'écrire parce que on a un certain contrôle sur les choses en fait. Comment vont agir les personnages, ce qu'ils vont faire, comment ça va finir. Et ce contrôle, parfois, on n'a peut-être pas dans la vie, en fait, où certaines choses nous échappent. Là, c'est vraiment nous qui décidons.
Anna. À quoi elle ressemble, Anna, Sorge Chalandon ?
Anna, c'est une jeune fille intelligente.
Déterminée.
Déterminée et brune, mais ça compte pas. C'est lorsqu'on commence en disant Anna, c'est une jeune fille brune, je trouve ça naze.
Oui, c'est vrai. C'est naze. Annie Cogent, vous écoutiez attentivement ce reportage. Vous aviez l'air assez émue d'entendre une jeune fille qui dit « Je veux prendre du temps pour écrire. Oui. » Pas pour moi, mais pour écrire.
Oui, je trouvais ça très, très joli. Elle parlait avec une grande fraîcheur. On l'entendait dans sa voix, d'ailleurs, et j'ai essayé de l'imaginer. Donc moi, je suis très contente de savoir qu'elle était brune, parce que j'aime beaucoup m'imaginer les gens, de tracer leur visage dans ma tête. Et donc, je la vois mieux maintenant. Je sais qu'elle est brune. Je pense qu'elle est charmante. Et surtout, cette sincérité, cette façon de dire j'ai du plaisir à écrire. Je me disais d'ailleurs, est-ce que je dirais que moi j'ai du plaisir à écrire? Je crois que j'aurais du mal à le dire parce que je n'ai pas du plaisir à écrire.
Vous ressentez quoi alors?
C'est très rare. Oh, vous ne devriez pas me demander ça parce que je suis une éternelle angoissée quand dès qu'il s'agit d'écrire, même un papier, là, j'arrive d'Arménie où je suivais la révolution iranienne. Donc, je me posais enfin dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel vers minuit et demi, je relisais mes cahiers de notes et je commençais à écrire à 1 heure et je mets un temps déraisonnable à écrire. C'était affreux. C'était pas forcément toujours des grands papiers, des longs papiers, mais je finissais vers 4 heures et demie du matin. Je relisais bien, je voulais être sûre. Je me disais, mon adjectif là, il est pas bien. Si je le mets dans l'autre sens, il sera mieux. Ça sonne mieux, etc. Alors que je pense que les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ils vont peut-être pas faire attention à la façon dont je vais aligner mes petits tas de mots. Mais pourtant,
ça
à chaque fois, je me pose toutes ces questions.
Un prix Albert Londres.
C'est abyssal. Comme interrogation à chaque fois. Non, bien sûr. Peut-être pour ça que je l'ai eu aussi, parce que je faisais attention à l'écriture. Normalement, c'est ça le prix Albert Londres. Mais c'est vrai que c'est une angoisse perpétuelle. Même quand il faut écrire vite, chaud. J'ai aussi fait des tweets pendant cette révolution. Donc, je pensais à plein de choses. Mais c'est vrai qu'au moment où il faut se poser tranquillement pour dire les mots, pour essayer de... Voilà, les gens verront, vivront cette révolution à travers mes mots. C'est une responsabilité incroyable quand on y pense.
C'est peut-être ça l'angoisse, en fait. C'est la responsabilité.
Ah oui, c'est la responsabilité.
Vous comprenez ce qu'exprime Annick Cojan, votre consoeur,
sur Chalandon ? Non seulement je le comprends, mais j'ai une jalousie sans faille, j'ose pas le dire. Mais je le comprends d'autant plus que, pour la petite histoire, moi, j'ai voulu inviter Annick à cette émission et je l'ai appelée. Et je pensais qu'elle était à Paris, en terrasse, avec les copains. Et je sens que quand je l'appelle, la sonnerie de téléphone est un peu particulière. Et quand elle me répond, il y a un écho, et en fait, elle était en Arménie quand je l'ai appelée. Et donc, elle commence à m'expliquer qu'elle est sur la place, qu'il y a de l'attention, qu'il y a du monde, qu'elle sait pas comment ça va tourner, elle sait pas comment vont tourner les choses dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et moi, je lui dis, ça me dirait de venir sur France Inter. Et c'est vrai que j'étais content parce que je savais que ma demande lui permettrait d'abord de rentrer à la maison. Parce qu'on sait jamais quand on rentre, comment on rentre et si on rentre. Et ça m'a bouleversé de me dire, tiens, c'est marrant, parce que il fut un temps où c'est moi qu'on appelait, j'étais loin, maintenant j'appelle les gens qui sont loin. Mais je comprends très bien ce qu'elle dit.
Arrive d'avoir un manque du grand reportage ?
Bah, franchement, oui. C'est-à-dire, c'est pas un manque du grand reportage, c'est un manque d'être là où les choses se passent. Oui. Moi, je vais peut-être être flagorneur, mais quand Annick parle et quand Annick écrit et quand Annick raconte, je crois ce que je lis.
Gentil.
Je sais où elle est parce que voilà, c'est une confiance, mais ça ne me suffit pas. Ce que j'entends ou ce que je peux entendre ou ce que je peux lire ne me suffisent pas à comprendre. J'ai appris pendant toutes ces années de reportage à me faire une idée par moi-même. C'est pas de la prétention, c'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire, moi, je suis une enveloppe vide et j'ai besoin de ressentir les choses. Et moi, quand j'entends Annie, quand j'entends derrière elle sur la place, quand je l'appelle pour lui demander si elle peut venir, pardon, est-ce que tu peux venir, mais tu es où? Et quand j'entends derrière la foule. Quand j'entends la foule qui crie, quand j'entends les, quand je raccroche et que je suis dans le silence de ma chambre à Paris, c'est vrai que j'ai préféré être avec elle sur la place.
On va écouter Yvan Marc sous les gants dans votre grand atelier sur Chalandon et puis on retrouve vos invités, bien sûr, à Étonnant Voyageur à Saint-Malo.
Je garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées. Je garde de la neige quand l'hiver nous aura oubliés. J'aurai quelques flocons à ramasser. Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront plus rien à se mettre sous les gants. Je garde de la neige en souvenir des longues glissées, des enfants revenant les fesses se geler. Je garde de la neige pour les années de sécheresse. Je garde de la neige pour ne pas oublier les matins blancs que nous avons laissés filer. Je garde de la neige mes lèvres gercées. Je garde de la neige le souvenir de nos peaux, tendues par les vents qui traversaient nos manteaux. Je garde de la neige pour la bulle qui balait le plateau, pour ne pas oublier le courage des chiens de traîneau.
Parmi vos invités, Sœur Chalandon, il y a l'écrivain Yahya Belaskri, auteur du livre d'Amré chez Zulma Collection Z. Bienvenue encore une fois. Vous êtes Merci. Écrivain et journaliste. Vous avez fait en Algérie des études de sociologie. Vous avez travaillé là-bas et vous êtes devenu journaliste, notamment à RFI, en choisissant de venir vivre en France à la fin des années 80. Alors, Sœur Chalandon, vous souhaitiez la présence, j'allais dire, de cet écrivain et de ce poète. Parce que quand j'ai lu le livre oui. d'Amré, je me suis dit, c'est de la poésie pure.
De ce poète et de cet ami aussi. Moi, je suis très heureux parce que Yahya a eu le prix Étonnant Voyageur. Et c'est rare, c'est très très mignon. Lorsqu'il est arrivé dans la salle avec les enfants qui l'ont applaudi, moi, je lui ai souhaité bienvenue en arabe. Puis il a pleuré. Puis moi, j'ai pleuré aussi après. On était un peu...
Encore ?
Mais ouais. Toujours. Je ne veux pas avoir les yeux secs. C'est quelque chose qui me... J'aurai un jour les yeux secs, mais ce ne sera pas pour une biopsie, mais pour une autopsie. En tout cas, moi, j'étais très bouleversé de que Yahya soit là. Et on se suit. C'est bizarre. Je crois qu'on s'aime beaucoup. Et on se suit. Et on,
mais qu'est-ce qui vous réunit à ce point ?
La poésie, c'est une certaine douleur, je pense. Une certaine... je pense que, enfin, je dis pour moi. Moi, je pense qu'on sait d'où on vient. Je sais où on va. On a peur tous les deux. Et on fait attention l'un à l'autre.
Et puis, cette anecdote qu'il raconte au moment du prix Ouest France Étonnant Voyageur, quand je rentre dans la salle devant le jury, et il y a quelqu'un qui me dit Marhaban. Et là, c'était quelque chose, un choc pour moi. Il me parlait dans ma langue, en me disant bienvenue. C'est assez extraordinaire. Il fait l'effort d'aller vers moi, cette générosité. Donc ça explique tout. Donc,
voilà, je sais que je l'aurais fait en chinois, ça n'aurait pas du tout été pareil.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Voilà, et puis ça continue ensemble.
Vous avez travaillé sur les relations entre la France et l'Algérie, sur l'immigration, le dialogue des cultures dans le bassin méditerranéen. Tous ces thèmes sont là, Sœur Chalandon, dans ce livre dont on parle, le livre d'Amré.
Oui, alors moi ce qui m'a bouleversé dans... Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, parce que après, il se peut que Yahya me dise que ce n'est pas fait exprès, mais moi, quand je vois le livre avec une majuscule, je pense au livre. C'est-à-dire, ça s'appelle le livre d'Amré, mais on parle aussi bien des il y a des personnages, il y a un juif, il y a un chrétien, on parle de ces livres-là aussi, leurs livres. Mmh. Et moi, ce qui me touche, c'est que le livre prend ici un caractère sacré. Donc, je ne sais pas si les livres de Yahya sont sacrés, mais en tout cas, ce livre-là prend un caractère sacré. Moi,
il raconte la vie d'un enfant né dans les années 50.
Dans les années 50, oui, c'est ça. Mais surtout, c'est un livre que j'aime beaucoup. D'abord, parce qu'il est extrêmement poétique. Oui. Nous avons affaire à un écrivain, nous avons affaire à un journaliste, nous avons affaire à un homme, nous avons affaire à un poète. C'est rare qu'on trouve de la poésie dans la littérature. Et là, c'est de la vraie poésie. Alors, je crois, je l'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais Amré veut dire...
L'amoureux. L'amoureux.
L'amoureux. Alors moi, j'ai lu autre chose, je ne me souviens plus ce que c'était. Voilà, c'est qui savait tout sur tout, Amré, en tamazigue.
Mais en tamazigue, en berbère, c'est l'amoureux.
L'amoureux,
qui
d'accord.
Qui savait pas, et qui ne savait pas.
Ou qui fait. Avait un avis sur tout. Non, c'est pas exactement
peut-être,
ça.
Peut-être.
D'accord.
Mais en tout cas, qui savait, qui ne savait pas tout, effectivement.
Alors quand vous dites on sait d'où on vient, Sœur Chalandon.
On sait d'où on vient, mais surtout, moi, ce qui me bouleverse dans ce livre, pour des raisons personnelles, c'est qu'il y a un attachement mythique à la mère.
M-E-R-E.
Que, à la maman que je n'ai pas connue. Et il y a un père de bravoure que je n'ai pas connu non plus. Donc, si vous voulez, dans ce livre-là, j'ai deux personnages que j'aurais aimé croiser étant enfant.
C'est une vie extrêmement douloureuse aussi que celle de ce petit garçon. Alors, j'ai tendance à penser que c'est vous, mais je ne vais pas vous poser la fameuse question de est-ce que c'est vous, ce petit Amré. Je le crois en tant que lecteur, en tout cas. Il vit avec une menace permanente. Il connaît la guerre d'Algérie, il connaîtra le fils ensuite. Et sans arrêt, il vit entre la bombe et le couteau. C'est ça, son quotidien.
Oui, mon personnage, Amraï, oui, effectivement. Mais nous sommes ici, les auditeurs ne le voient pas, dans une salle où il y a une exposition sur l'Empire colonial, derrière nous, en tout cas devant moi, je regarde. Et puis tout à l'heure, Anna avait parlé d'épargner, juste épargner. Mais même celui qui est épargné est blessé. Même quand on n'a pas perdu une jambe ni un bras, nous sommes blessés profondément. Et donc tout homme... Il porte une blessure, quel qu'il soit, même s'il n'a pas connu la guerre. La guerre n'est pas que seulement que les bombes et le fusil qui crachent, c'est aussi le mot qui fait mal, qui blesse. Donc Amraï traverse un certain nombre d'épisodes de sa vie depuis l'enfance, une enfance inexistante, une adolescence confisquée, une jeunesse trahie, l'âge adulte dont il revient de tout. Et là, il va rentrer dans un délire qui lui fait convoquer des personnages de son histoire, de l'histoire de son pays, de sa terre, parce que l'Algérie n'est pas nommée. Hein. C'est une terre, c'est un pays, mais il n'y a nulle part le mot Algérie.
Et si je puis me permettre, l'Algérie n'est pas nommée, et c'est intemporel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date possible. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un recommencement sans cesse. C'est un livre actuel parce qu'il sera actuel dans 20 ans. Il était actuel il y a 15 ans. Et c'est pour ça que j'aime bien. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire ce livre se passe si. On sait qu'il y a, c'est post-guerre, mais je veux dire, il n'y a pas de repère qui permette de dire, tiens, ce jour-là, ça c'était un vendredi, un mercredi, ou en 62, ou c'est une sorte de continuité.
Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Syrie, les Syriens.
Oui.
Mais hier, il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'était le génocide des Rwandais, au Rwanda. Et donc, tout un être humain pris dans les raies d'une histoire, et alors qu'il veut s'inventer en tant qu'individu, il est là pris dans cette histoire, dans ses contraintes, dans cette, angoisse permanente du lendemain. Et comment il fait? Ben, Amraï, il a une chose, il a un choix, il le fait, celui d'aimer.
Sans mesure. Il est amoureux d'une jeune fille qui aime la poésie.
Alors, cette jeune fille, on ne sait pas si elle existe ou pas, parce que c'est vrai qu'elle est là dans son enfance, mais après, elle n'existe plus. Mmh. Elle n'existe que dans ses songes et dans ses appels à lui. C'est lui qui l'appelle. Elle se nomme Octavia. Et pour lui, Octavia, celle-là, c'est une femme qui lui permet, précisément, peut-être, de s'accrocher à la vie. Et là, la métaphore du pays est là.
Oui, mais toi, Yaria, tu sais si elle existe ou pas. Lorsque tu écris, tu sais si elle existe. Tu veux qu'elle existe ou pas?
Mais bien entendu qu'elle existe. Je la connais. Je l'aime. C'est la terre algérienne.
Ce petit garçon est né dans une famille très pauvre. Et il a été sauvé par les livres, un petit peu comme ce que nous disait Sœur Chalandon. S'il est encore debout et bien vivant, Sœur Chalandon, c'est que des personnes autour de lui, et peut-être des amours, j'ai cru comprendre, lui ont ouvert l'esprit à la culture, à la musique. Ça a été votre cas aussi, au-delà de votre personnage fictif?
Oui, mais bien évidemment, moi personnellement, dans ma vie, ce sont les livres. Je suis né dans une famille pauvre, de personnes analphabètes, personne n'a fait d'études. Je suis le seul de la famille de 8 enfants qui a fait des études, qui est arrivé jusqu'au bac, qui est allé à l'université. J'ai eu le bac, mon père est passé dans toutes les rues du quartier. Mon fils a eu le bac. C'était extraordinaire.
Et vous le racontez très bien.
C'était un événement fabuleux. C'était...
Ça ressemble sacrément quand même à Amraï. Hein.
Ouais, ça ressemble un petit peu. Voilà.
Oui, et donc, ça se passe dans le roman. Oui.
Et ce sont les livres. Donc les livres, c'est moi qui ai introduit les livres à la maison. Donc... Ils m'ont sauvé comme ils sauvent Amraï et qu'ils sauvent d'innombrables personnes de par le monde.
Mais peut-être plus les poètes que les romanciers, pour ce qui vous concerne.
Alors moi je suis pas poète, moi je suis romancier, humblement.
Ah, tu n'aimes pas le mot poésie?
Non, c'est pas que je n'aime pas. Pour moi le poète c'est Kateb Yassine, c'est Rimbaud, Baudelaire...
Mais c'est une figure écrasante alors Kateb Yassine, s'il ne peut pas y avoir
d'autres poètes que lui. Elle n'est pas écrasante pour moi, elle est heureuse, parce qu'elle me projette. Et c'est Jean Sénac, il m'emmène, et donc... Je suis leur enfant, ces poètes-là. J'aime à les convoquer, j'aime à aller dans leur sillage. Donc,
Mahmoud Darwish.
Bien sûr, Mahmoud Darwish, bien sûr. Georges Seferis, avec le poème Reniement. Quand on enterre Georges Seferis à Athènes, il y a 100 000 Athéniens qui prennent son corps et qui vont l'enterrer et qui chantent Reniement, son poème, qui a été mis en musique par Theodorakis. Donc, c'est ça, mes poètes, là. Je les revendique.
Puisque vous parlez de musique, on va écouter un petit peu de musique classique, puisqu'il en écoute beaucoup, Sorge Chalandon. Vous écoutez Mozart, vous écoutez aussi, paraît-il, Gabriel Fauré.
Oui.
On a choisi la Sicilienne en sol mineur opus 78 pour violoncelle et piano par Ophélie Gaillard et Bruno Fontaine.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Belle version, hein, Sorge Chalandon, de ce Gabriel Fauré, par Ophélie Gaillard.
C'est moi qui vous remercie.
Yara Belascrib, je pense que Sorge Chalandon a énormément de questions à vous poser. Moi, j'aime bien quand les invités du Grand Atelier sont curieux des gens qu'ils reçoivent.
Bah, j'en ai déjà posé plein, mais j'ai lu une chose que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si tu aimes, mais c'est une phrase dans le journal Al-Watan qui parle de ce livre en disant... C'est un livre qui sert à réconcilier l'Algérien avec son histoire. Et je trouve que c'est un très, très bel hommage.
Je suis content que ce journaliste l'ait dit. Si ça participe de cela, je veux bien. Mais moi, je suis ma tâche est toute modeste. C'est juste d'écrire, de poser des questions, de continuer ce chemin d'écrivain que j'ai pris il y a quelques années. Voilà, tout simplement.
Oui, mais voilà, c'est quand même dit. Mmh. Là, moi, je ne sais pas si on disait ça d'un de mes livres... réconcilier, je sais pas, l'Irlande avec son histoire, ça me ferait plaisir, mais ça n'a pas été écrit.
Mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, voilà. Ça me fait plaisir, bien sûr.
Et il y a une chose qui me touche beaucoup aussi dans ce livre, donc c'est la fin du livre, mais c'est la mélancolie de l'exil. Moi, l'exil, c'est l'une des choses que j'ai peur de l'exil, parce que voilà, c'est quelque chose de je n'imagine pas. Et m'exiler, j'imagine pas l'obligation de l'exil, ça me terrorise.
Oui, vous êtes arrivé en France à la fin des années 80. Hein.
C'est ça, 89, mais je ne te le souhaite pas.
Parce non, bien sûr, mais
c'est une part de soi qui part.
Voilà, mais tu en parles tellement bien que je le souhaite encore d'autant moins maintenant que j'ai lu ton livre.
Annie Cojon, est-ce que vous lirez le livre d'Amray ?
Ah oui. Ah oui, vous éveillez ma curiosité complètement. C'est vrai que je ne le connaissais pas, je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas ce livre. Et oui, bien sûr, j'aime bien l'idée de la poésie, je n'en lis pas beaucoup, mais j'aime ça. Et on parlait rapidement d'Albert Londres tout à l'heure, mais il a commencé par être poète avant d'être grand journaliste, enquêteur, grand reporter au long cours. Mais d'abord, il voulait être poète.
Que faites-vous ici à Étonnant Voyageur, Annick Cogent, au-delà de votre présence dans le grand atelier de Serge Chalandon?
Écoutez, je suis venue pour deux choses. D'abord, il y a le jury du prix Kessel, dont je fais partie, et qui remettait son prix à Marc Duguin. Il y a toujours un après-midi Joseph Kessel. C'est très associé à Étonnant Voyageur. Et puis, c'est vrai que cette année, j'ai un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Je ne serais pas arrivée là si », 3 points de suspension, où je fais des rencontres avec 27 femmes différentes.
Mais pas n'importe lesquelles.
Et des femmes...
Je voudrais que vous nous parliez
au moins
d'une rencontre qui est Asli Erdogan, cette romancière qui est turque, qui est obligée de vivre en Allemagne, qui a fui son pays,
qui a
fait de la prison, et ça a dû être un moment fabuleux.
C'était formidable de la rencontrer, c'était un peu inhabituel pour moi, parce que beaucoup des femmes que j'ai rencontrées, c'était à Paris, ou c'était plutôt en France, et là, j'étais allée la voir à Istanbul, peu de temps après qu'elle soit sortie de prison, et... Elle était fiévreuse, elle n'était pas bien, mais elle est souvent malade. Elle fumait, elle enchaînait les cigarettes fiévreusement comme ça. Elle se tenait le ventre parce qu'elle a mal au ventre. C'était chez une amie, on avait fait en sorte que ce ne soit pas chez elle, bien sûr. Je pense qu'elle est constamment surveillée. En tout cas, elle se sent traquée. Et puis, on a déroulé le fil d'une existence. J'allais pas seulement lui poser des questions politiques, d'ailleurs. Très peu, c'est pas souvent l'objet de mon questionnement. Ça arrive comme une incidence, comme par incidence. Mais au départ, je pose toujours cette première phrase, qui est même pas une question, mais qui est un prétexte pour rentrer dans une conversation, qui est alors, Asli Erdogan, je ne serais pas arrivée là si... Alors, évidemment, c'est abyssal comme questionnement, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire chacun, plein de rencontres, de photos, de moments qui
viennent. Son courage, elle le doit peut-être à quelqu'un.
Elle a dit, non, tout de suite, elle a dit, si je n'avais pas, alors je ne me rappelle pas sa phrase exacte, mais si je n'avais pas depuis ma plus tendre enfance vécu de la douleur et de la violence, un univers de douleur et de violence depuis qu'elle est toute petite, et de me raconter effectivement son enfance avec des parents extrêmement différents, un père qui était engagé politiquement, qui avait été communiste mais qui était rentré de ces années de moments de prison, en tout cas violent, et qui reportait la violence qu'on avait exercée sur lui contre sa famille, je pense qu'il battait sa femme, et la petite Asli était perdue, c'était une enfant surdouée, qui a toujours été très ennuyée par ça, parce qu'elle a toujours sauté des classes et qu'elle était la meilleure, elle qui était tellement timide, qui voulait toujours rester dans son coin, et en même temps il y avait toujours ses notes qui la faisaient remarquer. Elle a fait une première tentative de suicide à 10 ans, parce qu'elle rentrait dans une bonne école, elle était contente normalement de rentrer dans son école, ça lui faisait peur, en même temps il y avait la violence dans sa famille, etc. Donc c'est extrêmement rare, une tentative de suicide à 10 ans, on le fait peut-être à l'adolescence, mais vraiment à 10 ans, ça n'arrive quasiment jamais. Là-dessus, elle a eu une agression sexuelle, et puis après, il va y avoir des difficultés pendant toute sa jeunesse, à vrai dire.
Et puis elle devient journaliste.
Elle ne devient pas journaliste au départ, elle est surdouée, donc elle va faire des sciences, on va la mettre sur une filière de sciences, elle va devenir une grande scientifique, et elle va travailler sur l'énergie nucléaire, elle va faire des recherches très importantes, et puis petit à petit, quand même, il y a ce démon de l'écriture. D'ailleurs, j'exagère parce que, oui, vous avez raison, très vite elle a écrit, elle écrivait des lettres, elle écrivait des poésies quand elle était petite, et sa grand-mère a volé une de ses poésies, l'a présentée à un concours, elle a été remarquée, et elle a trouvé ça effroyable, et du coup elle s'est arrêtée d'écrire parce qu'on avait un peu violé son intimité, et elle voulait pas être célèbre, elle voulait pas du tout être mise en avant. Et puis petit à petit, elle va revenir à l'écriture, et puis elle va être amenée à travailler, ensuite elle va voyager, mais toujours elle va rencontrer la violence, et peut-être elle va la rechercher d'une certaine façon. Elle sait elle-même qu'il y avait quelque chose chez elle qui allait... Elle allait se brûler toujours quelque part, et puis elle va être amenée à témoigner pour le coup, alors à écrire, à se dire comment à la fois témoigner et utiliser la littérature dans mes témoignages pour être au plus proche de la réalité. Et même dans ses fictions, elle faisait des investigations pour que ce soit encore plus juste. Enfin, c'est une recherche perpétuelle qui la hante complètement. Et comment, avec que des mots, en jouer, comment avec les phrases tricotées,
pour
Chalandon, toucher.
C'est une figure importante de la littérature, bien sûr, Asli Erdogan. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle vous touche? Est-ce que vous la lisez? Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Alors moi, je la lisais avant qu'elle ait des problèmes, des ennuis. D'ailleurs, il faut quand même que nous disions que Annick, d'autres, moi notamment, nous parrainons des journalistes turcs emprisonnés ou qui vont l'être ou qui ont été condamnés. Moi, il s'appelle Ahmet Çek.
Le mien, c'est Kadri Gürsel.
Voilà. Alors, peut-être que des gens disent, mais parrainer un journaliste turc emprisonné, à quoi ça sert? Moi, je peux vous dire que lorsque vous êtes en prison et que vous apprenez qu'en France, il y a des gens qui prononcent votre nom, des gens qui parlent de vous, des gens qui donnent des informations sur vous, même si ça paraît pas grand-chose, c'est formidable. Et moi, sincèrement, je vais vous dire, je ne pensais pas qu'on la verrait. Je pensais pas qu'elle sortirait. Je pensais pas qu'elle y arriverait. Et donc, chaque fois que je voyais son nom, je me suis dit, on ne la reverra pas. Et donc, je trouve que c'est, j'aime comment elle est, j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle écrit, mais ce qui me fait peur maintenant, c'est comment est-ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va devenir. C'est quel espace l'exil va lui offrir. Et c'est pour ça, je trouve que le travail d'Annick ou lui donner la parole c'est quelque chose qui est absolument, je crois que c'est vital maintenant. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin de nous véritablement et besoin de nous pour écrire, c'est-à-dire pour vivre, quoi. Mais ce qui est important aussi dans ce livre d'Annick, c'est qu'elle a simplement dit comme ça, et d'autres femmes que j'ai vues, enfin, il faut donner quelques noms de femmes parce que c'est pas Madame Machin.
Ça part de Christiane Taubira, Amélie Nothomb, John Baez, Françoise Héritier, même Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot, écart. C'est dire que moi, ce qui me touche, c'est la diversité de ces femmes et oser poser, moi je trouve ça formidable, poser ces questions à des femmes qui sont des icônes, questions personnelles et qu'elles s'y prêtent, je trouve ça assez formidable.
En tout cas, je leur fais comprendre. Enfin, j'ai pas besoin de leur dire, peut-être par le regard aussi, par les attitudes, mais que ça m'importe. Leur réponse m'importe au plus haut point. Elle m'importe comme journaliste, parce qu'accessoirement, je dois écrire un article le lendemain ou à la fin de la semaine. Mais ça m'importe comme femme, comme auditrice, vraiment.
Et comme bretonne.
Elles peuvent m'apporter. Et comme bretonne.
Et oui,
peut-être.
Vous êtes née à Brest, Annick Cojon.
Oui, bien sûr, je suis finistérienne.
Allez, on écoute Calypso Rose dans le grand atelier de Serge Chalandon. Calypso Blues.
Sitting by the
Et oui, on voyage dans ce grand atelier en direct de Saint-Malo du Festival Étonnant Voyageurs. Nous étions avec la reine du Calypso, originaire de Trinité et Tobago, Calypso Rose. Et pendant ce temps-là, Sorge Chalandon note énormément de choses sur un petit carnet. Vous avez des petits carnets comme ça quand vous étiez reporter, vous aviez ça ?
Oui, j'avais les mêmes en fait. Hein, donc je ne donne pas la marque Clairefontaine.
Et à droite, vous écriviez ce que vous voyez comme journaliste et à gauche, vos sensations.
Internet.
Incroyable.
C'est terrible.
Mais j'aime bien cette idée que la page de gauche vous serve aujourd'hui comme romancier peut-être.
Alors, en fait, je n'écrivais sur les pages de droite que ce qui devait aller pour le journal.
Voilà. Donc, il y avait Libé à droite et les romans à venir à gauche.
Les interviews, non pas les romans à venir, les sentiments. Et je me doutais pas que mes romans seraient la somme de mes pages de gauche. Je l'avais pas encore compris.
Et pourquoi vous avez dissocié ça d'ailleurs ?
Parce que je ne voulais pas mélanger mes larmes aux larmes des autres. Ou ma colère à la colère des autres. On va pas arrêter de pleurer tout le temps, mais il y a un moment donné où ma colère était à gauche. Mais le fait que je sois en colère parce que quelqu'un me dit quelque chose que je supporte pas, et je fais semblant de noter, il croit que je note ce qu'il dit, et j'écris à gauche, pauvre con, je sais pas d'écrire comme ça. Et donc, ça, il ne le sait pas du tout, mais cette colère-là n'a aucune place dans mon journal.
Je vois pas du tout Annick Cogent faire ça.
Oh, si, tu pourrais écrire
pauvre con, ça... Ça peut être arrivé. Je mets des petites notes parce que j'ai pas une très bonne mémoire non plus. Donc de plus en plus, y compris quand je prends les coordonnées de gens, je mets des petites assises comme ça qui peuvent être ce
attention,
genre de choses.
Attention, gros relou.
Ou tendre. Non, je peux dire tendre, généreux, beau regard, pétillant.
Non, mais c'est ça. Mais non, tendre, généreux, beau regard.
Page de gauche.
J'aurais pu l'écrire et je me vois pas dire, je sais pas, Macron, tendre, généreux, beau regard. C'est pas. Donc ça, c'est la page de droite. Tu peux pas tout faire non plus.
Christian Cojol est avec nous. Christian Cojol, vous l'avez connu à Libération quand vous étiez dans vos grandes années Libération. Christian Cojol était le patron de la photo. Et c'était déjà
non, il n'était pas le patron
important.
De la photo. Il était
directeur artistique.
Il était la photo.
Il était la photo.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faisait peut-être de plus qu'un autre ?
D'abord,
pour dire ça, la photo.
Non, mais et là, c'est pas de la flagornerie encore une fois, mais moi, quand je suis rentré à Libération, pour moi, une photo était bonne ou était floue. Oh, c'est flou. Oh, c'est bien. Et Christian m'a expliqué, et d'autres, ben c'est vrai, Christian ne rit pas. Pour moi, c'était flou, c'était pas flou, c'était cadré, c'était mal cadré. Et brusquement, je me suis aperçu de choses que je ne me rendais pas compte du tout. C'est-à-dire que, prenons un homme politique connu qui fait un discours à l'Assemblée nationale. Que fait un photographe ? Il prend l'homme politique français connu, faire un discours à l'Assemblée nationale. Et un photographe drivé par Christian Cojol, il prend ses mains, juste ses mains, sur le bureau. Parce que ses mains, elles sont crispées. Parce qu'il n'est pas à l'aise. Parce qu'il nous raconte des cracks. Moi, j'aurais vu les mains, j'aurais dit, « Ah, mais on ne voit pas la tête du monsieur. » Non, non, sors, je vais t'expliquer. Ce qu'il dit n'a aucune importance. Ce qui est important, ce sont ses mains qui sont sur le dossier comme des serres d'oiseaux parce qu'il est mal à l'aise. Moi, Christian, c'est celui qui m'a expliqué d'abord de laisser tomber... je croyais que j'allais pouvoir être photographe, donc ça, tu laisses tomber. Et ensuite, qui m'a expliqué... que la photo, c'était quelque chose qui allait bien au-delà de la totalité ne pouvait pas être dit, mais en revanche, des morceaux pouvaient être dit. Moi,
Vous avez été un professeur pour des journalistes,
oui,
finalement,
c'est un professeur.
Christian Cojol. On va le laisser parler un peu.
Oui, bien sûr.
Christian Cojol, ces années Libé qui sont importantes aussi dans votre vie, même s'il y a beaucoup d'autres choses
depuis. Oui, elles ont été extrêmement importantes parce que, pour plein de raisons. Parce que, d'abord, c'était un espace de liberté. Et là, je dois dire que j'ai eu la chance, y compris quand on est reparu en 81, puisque c'est là que, avant, je ne faisais qu'écrire dans Libération, c'est à partir de 80 que je me suis occupé de la politique visuelle, disons.
Oui, vous étiez critique photo à l'époque où Hervé Guibert était critique photo au Monde. Hein.
Absolument. Oui. En plus, on est reparu en mai 81, on n'avait pas de publicité. Donc, on n'avait pas à ce moment-là à lutter avec les images contre d'autres visuels que ceux qui sont publiés. Et on s'est posé la question très vite de savoir comment on rythmait le journal. On avait une règle formidable qui s'est perdue, qui était de dire on veut faire le journal qu'on a envie de lire. On veut faire le journal qu'on a envie de voir. Et ça, on l'a fait. Et Sorge parlait des hommes politiques. Je ne résiste pas au plaisir de... C'était une anecdote. Nous avons lu à la fois des désagréments sur l'instant, puis des grands éclats de rire. Un jour, Libération obtient l'interview d'un homme politique important, M. Lionel Jospin, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et j'envoie un photographe, Xavier Lambourg, qui était photographe des star de cinéma. Évidemment, comme d'habitude, le photographe est reçu comme un chien dans un jetier. À la fin de l'interview, il dit « mais il faut que je fasse mes photos en long d'œil, c'était pas prévu, etc. » À ce moment-là, M. Jospin, qui était épuisé par la tension, par 3 heures d'interview, il enlève ses lunettes, il les pose sur la table, et Xavier Lambourg le photographie. Il fait 2 vues. Entre au journal, on choisit, on publie en grand, etc. Le lendemain matin, 7 heures du matin, on m'appelle chez moi. C'était le chef du cabinet, M. Jospin, qui me traite de tous les noms, qui m'insulte. M. Jospin appelle Serge Julie en criant au meurtre. On l'avait volontairement défiguré. Et la raison était simplement que, sans ses lunettes, on ne le reconnaissait plus. Voilà. C'est des histoires de Libération. Mais Libération, ça a été, d'une part, un laboratoire pour les photographes. Ça a été une façon de montrer que la photographie, c'est un mode d'expression. Que c'était pas forcément une illustration. Et qu'il y avait des photographes de styles très différents qui avaient des choses à nous dire sur le monde. Voilà. Ça a été ça, Libération.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que la place de la photo dans Libération était d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'on pouvait couper des textes pour que la photo soit plus grande. Ce que je ne connais pas dans d'autres journaux, c'est assez rare.
J'aimerais bien, Serge Chalandon, que vous nous disiez un mot sur le livre qui sort chez André Frère, donc, Mai 68. Ce sont des livres de des photos de Mai 68.
Voilà, Mai 68 de Claude Dithivon
Dithivon avec une préface de Christian Cojol.
Avec une préface de Christian Cojol. Et il y a un mot dans le livre que je trouve très très beau sur la photo, sur ce qu'il a fait, sur son travail. Ce n'est pas un reportage. Il dit que c'est un journal. C'est un carnet de notes et il dit « C'est simplement le plaisir sensible d'avoir eu la chance d'être là à ce moment-là. » C'est ça la photo.
Merci infiniment, Serge Chalandon, pour ce grand atelier en direct de Saint-Malo, étonnant voyageur.